présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. À Lyon, Galien des Adamfort. Je dois aller voir mes parents, autrement ça va aller mal pour moi. Et oui, je suis encore pour eux leur fils. L'enfant lui dit :
J'ai eu de la chance, c'est d'avoir encore l'âge de jouer au fils.
Ils emmènent Philippe jusqu'à chez lui. Les deux cousins s'embrassent et Philippe demande :
On se revoit quand ?
Galien lui dit : Si tu veux, tu peux venir vivre avec moi à Paris. Philippe lui dit :
Je m'habituerai jamais à cette vie.
Et puis qu'est-ce que je ferai là-bas ? Galien lui dit :
Tu feras comme tout le monde, tu travailleras avec moi.
Philippe lui dit :
Non, je veux rester libre. Je ne veux pas de rapport. Patron employeur entre nous.
Galien lui dit :
Tu sais bien que ce ne sera jamais comme ça entre nous.
Philippe lui dit : Pour les autres, oui. Galien l'embrasse et lui dit :
Je téléphonerai.
Et Philippe entre dans sa maison et Galien dans la voiture. Galien va sonner chez ses parents.
La porte s'ouvre, c'est le domestique. Bonjour, mes parents sont là?
Oui, monsieur,
ils sont au salon. Bon, j'y vais.
Frappe à la porte du salon et entre.
Ses parents sont assis sur des fauteuils. Lorsqu'ils le voient, ils se lèvent et vont vers lui.
Sa mère lui dit « Oh, te voilà enfin !»
Ils s'embrassent.
Sa mère lui dit « Tu daignes tout de même nous rendre visite. Monsieur passe son temps à aller voir son cousin et n'a pas le temps d'aller voir ses parents. Tu ne nous aimes pas. »
« Mais si, mère. »
« Mais non, tu t'inquiètes même pas de nous. Ne demande jamais de nos nouvelles. »
Galien est tout rouge de honte et lui dit « C'est-à-dire que je suis très pris ?»
Elle lui dit « Sauf pour Philippe. Tu sais que ton père a été très fatigué ?»
Aubert lui dit « Laisse cela, ça ne l'intéresse pas. »
Galien lui dit « Mais si, père, je ne le savais pas. Vous auriez pu me le dire, me le faire savoir. Qu'avez-vous eu ?»
Le père aux épaules.
Sa mère lui dit « Il a eu une bronchite. » Et un petit ennui cardiaque.
Galien lui dit « Et il va mieux maintenant ?»
Elle lui répond « Oui. »
Galien dit à son père « Si tu veux, je peux te faire ausculter par un de mes spécialistes. »
Sa mère lui dit « Surtout pas. Il paraît que vous faites des expériences horribles sur des cadavres et même des êtres vivants. »
Galien lui dit « C'est faux. Ce sont des racontars. Et puis, père, c'est mon père. » Il n'oserait pas.
Le père lui dit, je te remercie, je vais très bien en ce moment. Je suis complètement guéri.
Galien lui dit, il faut me prévenir si vous avez des ennuis.
La mère lui dit, on ne serait pas obligé de te prévenir si tu venais plus souvent nous voir.
Il lui dit, je fais ce que je peux. Vous savez, j'ai beaucoup à faire, je reçois beaucoup.
Elle lui dit, cela ne l'empêche pas de voir ton cousin.
Galien lui dit, tu vas pas me reprocher que je le voie.
Son père dit à sa femme, laisse. D'ailleurs, ils ont toujours été ensemble, comme des frères jumeaux. Il vaut mieux qu'ils s'entendent bien que s'ils se disputaient ou se jalousaient.
Mais c'est vrai, tu pourrais venir nous voir un peu plus souvent.
La mère dit, tu restes pour le dîner?
Oui, je reste.
Il reste pour leur faire plaisir.
Il prévient Danfort qu'il reste pour le dîner. Danfort ira manger au restaurant.
Durant le repas, la mère lui parle.
« J'ai vu Madame de Hautebord. Elle m'a dit que Flore t'avait vu à Paris, que vous vous étiez vu, même très souvent. »
« Oui, mère, mais en camarade, Flore ne veut absolument pas se marier. » Une femme, grande, brune, claire, dans les 35 ans, habillée d'une robe vert pâle toute simple. Elle a le visage triste, mais illuminé. Elle sort de la chambre de ses deux garçons, 7 ans et 3 ans. Elle vient de les border et de leur faire faire une prière. Dieu qui est aux cieux, donnez-nous l'immortalité à moi et à ma famille. La famille habite un appartement à Écully, dans un immeuble neuf. La mère va rejoindre son mari au salon. L'appartement est propre, meublé de meubles très simples et fonctionnels. Il y a bien entendu le coin ordinateur. Chacun a le sien.
Elle entre au salon.
Le mari, cheveux châtains à lunettes, un peu fort, habillé d'un costume gris clair et cravate. Il est grand. Il est assis dans un fauteuil en cuir noir.
Elle va s'asseoir en face de lui, dans un même fauteuil.
Il lui demande, ils sont couchés ?
Oui. Tu leur as bien donné la dose qu'il fallait ?
Oui.
Ne te fais pas de soucis. Ils viendront dans 5 heures nous chercher, après ce sera l'immortalité. Tout est en ordre. J'ai tout payé. Nous n'avons plus besoin de rien.
Elle lui demande, tu as faim ?
Non. Et toi ?
Moi non plus. J'ai hâte que ce soit fini. Regardez-moi. Qu'on en a parlé, toutes ces soirées passées avec le grand frère, qui nous répétait à chaque fois la même chose, l'immortalité, il faut y croire. Et pour cela, il faut se préparer, toujours, toujours la même chose. J'ai été satisfaite le jour où on l'a signé. Il lui dit, ce n'est pas cher payé pour avoir l'immortalité. Elle lui dit, c'est tout de même toutes nos économies. Il lui dit, l'argent ne servira à rien. Elle lui demande, et où allons-nous ? Il lui dit, dans une autre vie, un autre corps. Ne te fais pas de soucis. Elle lui dit, je commence à avoir sommeil. Moi aussi, allons nous coucher. La porte est ouverte ?
Oui.
Bien.
Ils sortent du salon pour aller dans leur chambre. Dans leur chambre, ils se déshabillent. Se mettre en pyjama. Elle en chemise de nuit et se couche. Il se penche et lui dit, bonne nuit, ma chérie. Elle lui demande, est-ce que tu crois que nous nous retrouverons après ?
Ils nous l'ont promis.
Mais est-ce que tu vas m'aimer dans ma nouvelle apparence ?
Je saurai que c'est toi. Je t'aime. Dors.
5 heures plus tard, la porte de l'appartement s'ouvre. Il n'a fallu que la pousser. Elle n'était pas fermée. Des hommes en blouse blanche sont entrés. Ils ont des sacs en plastique. Ils sont 3. Un des hommes dit, allons voir si tout est en ordre. Ils font toutes les pièces. Ouvre les placards. Les buffets. Les tiroirs. Les derniers papiers. Les lettres. Tout semble en ordre. Bien, allons voir. Ils sont dans la chambre. Ils vont dans la chambre des parents. Les parents ne bougent pas dans le lit, mais leur immobilité semble suspecte. Les hommes s'approchent. Les découvre. Un autre homme prend un sac en plastique qu'il étend à terre. Les deux autres prennent le mari. Et le dépôt sur le sac. On referme les extrémités du plastique. Avec une fermeture éclair, on ferme le sac. On fait la même chose pour la femme. Après, les hommes sont allés dans la chambre des enfants. Deux petits corps.
Oui, toute la famille s'est suicidée. Une fois que tout est fait, l'un des hommes demande « Est-ce que l'on prend tous les corps ?» Un lui dit « D'après les ordres, ils ont besoin de tous les corps. »
Ils prennent les corps. Ils sortent de l'appartement. Mettre dans l'ascenseur.
Puis, en bas de l'immeuble, il y a un grand camion. Ils y déposent les corps. Le camion roule dans la ville. En dehors de la ville. Les trois hommes sont devant. Il y en a un qui dit
« Moi, je ferai jamais ce genre de choses à ma famille. Faut être complètement cinglé pour croire à ces bêtises. »
Un lui dit
« Regarde, les hindous, ça fait des milliers d'années qu'ils croient à ce genre de bêtises. Nous, c'est mieux. On essaye d'y faire d'une façon scientifique. L'immortalité grâce à l'ADN. » Greffé dans le corps d'un autre, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du temps. L'autre lui dit, et si l'on transforme, ou transfère ton ADN dans un animal ou une plante? L'autre lui répond, les hindous aussi le disent que c'est possible. L'autre lui dit, moi j'aimerais pas ça. Le troisième qui conduit leur dit, surtout ne répétez pas ce genre de choses. Parce que votre ADN va vite se retrouver dans un bocal.
Le camion s'est arrêté en pleine campagne devant l'entrée d'un bâtiment genre entreprise laboratoire moderne. Les trois hommes sortent de voiture et sonnent à la porte. La porte s'ouvre. Un gros homme en blouse blanche leur dit
« Ah, c'est pas trop tôt !»
Un des hommes lui dit « Tu étais pressé, il fallait les chercher. Cette fois, il y en a quatre. »«
C'est pas moi qui suis pressé, c'est au labo. »
Les trois hommes sortent de la camionnette. Un dit à celui qui les a ouverts.
« Allez chercher les chariots. »
L'homme se dépêche. On amène les chariots. Les quatre cadavres sont déposés et poussé dans les couloirs Jean Roupital.
Puis, on ouvre une porte, Jean congélateur, pour mettre les corps.
L'homme qui leur a ouvert leur dit
« Demain, on les coupe en morceaux. » Mais pour cela, il faut qu'ils restent frais et encore en vie. Ils sont que dans un coma demi-profond. Il faut que les cellules nerveuses réagissent lorsqu'on les coupera, pour
pour que le cerveau soit en bon état de marche. Ah, ça aurait été mieux. C'est de faire comme l'on faisait dans les maisons Vie Meilleure, bio. Les couper vivants, sans drogue. Les drogues, c'est dangereux. Ça met en demi-sommeil les nerfs et risque de les endommager. Maintenant, c'est pas facile d'attraper les gens vivants. Ça se méfie, ça se défend. Ça ne comprend pas qu'on a besoin d'eux pour nos expériences. Remarquez, de temps en temps, on en a. On les chasse surtout à la sortie des cafés. Là, ils sont à moitié ivres. C'est plus facile à prendre. Et puis, ça court moins vite quand on est ivre. Le plus difficile, c'est de leur faire comprendre de ne pas bouger lorsqu'on les met sur la table d'opération. L'un des hommes lui dit, « C'est dégueulasse ce que vous faites !» L'autre lui dit, « Ce qui est dégueulasse, c'est tout ce sang. Là, ça gicle de partout. On en a partout, sur le visage, le corps. » Il bouge tellement. Quand on les coupe en morceaux, on a beau les attacher. Il faut bien laisser le passage à la scie et au couteau et au burin. Ça crie aussi, comme des cochons. Mais ça, c'est bon. Ça démontre que le corps et le cerveau est en bonne santé, qu'il réagit bien.
Un homme et une femme montent les escaliers d'un immeuble simple des années 1960. L'homme est grand, maigre, les cheveux coupés courts. Il est très pâle, a des lunettes en métal, habillé d'un costume gris, porte à la main un cartable en cuir noir. La femme, plus petite, un peu forte, cheveux à chignon tirés stricts, bruns, visage rond, un peu dure, a des lunettes elle aussi. Elle est habillée d'un tailleur beige en laine. Elle porte un sac et un livre épais noir.
Il sonne à la porte d'un appartement. La porte s'ouvre.
C'est un homme grand fort dans les 40 ans, maillot de corps tricoté blanc, pantalon jean.
Qu'est-ce que c'est ?
La femme lui dit. C'est pour vous apporter l'immortalité.
Non, merci, on n'en veut pas.
Une voix de femme crie. Qu'est-ce que c'est ?
L'homme lui crie. C'est des témoins de Jéhovah.
La femme lui dit. Non, monsieur, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, mais les membres de l'immortalité.
L'homme crie. C'est pas des témoins, c'est des membres de l'immortalité.
La femme dit. Dis-leur qu'on ne veut rien, pas d'aspirateur, rien. D'ailleurs, nous n'avons pas d'argent.
L'homme qui est à côté de la femme dit, nous ne vendons rien, madame, mais nous apportons que l'immortalité.
Le locataire dit à sa femme,
ils viennent nous apporter l'immortalité.
Elle crie, débrouille-toi avec eux, moi je suis avec ma mayonnaise.
L'homme en maillot de corps lui leur dit,
bon, eh bien entrez.
L'homme et la femme entrent, ils ferment la porte.
Moi, c'est Antoine. Ma femme, c'est Nénette.
L'homme dit.
Moi, je suis frère Jean.
et m'accompagne dans ce monde, Denise. Sors, Denise. »
Antoine leur dit, « Ne faites pas attention au désordre. C'est dimanche, on se lève tard. Allons dans la salle à manger. »
Et il va ouvrir une porte. Entrez.
La salle à manger est en plaqué à cajou marron. Il y a sur le buffet, bas, des figurines en porcelaine plastique, genre Watteau. Une table à roulettes pour la télé. Sur la télé, une poupée Vogue. La table est recouverte d'une nappe en plastique avec des dessins à fleurs beige. L'homme leur dit,
« Asseyez-vous. »
Et ils s'assoivent. Et Antoine s'assoit en face d'eux.
Et leur dit, il faut attendre ma femme, parce que je ne sais pas bien parler.
La femme entre.
Une grande maigre, cheveux blonds foncés, délavés, frisés, tête osseuse. Elle a une blouse bleue et des charentaises rouges. Dès qu'elle les voit, elle dit à son mari,
« Mais pourquoi les as-tu fait rentrer ?»
Antoine lui dit, « Mais c'est toi qui me l'as dit !»
Elle lui dit, « Mais non !»
Le couple dit, « Si vous voulez, nous pouvons partir. » La femme leur dit,
« Non, restez, mais je vous préviens, nous ne voulons pas rentrer dans une de vos religions. »
L'homme lui dit, « Mais non, madame, nous sommes œcuméniques. Pour nous, toutes les religions se ressemblent et se valent, comme le pape le pense. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il n'est plus catholique, mais œcuménique. C'est la religion du 21e siècle. Tous égaux, les dieux, tous égaux. Même la religion zoulou va devenir œcuménique. » Elle lui demande, « Alors, vous êtes venu quoi faire ?»
Jean lui dit, « Vous apportez l'immortalité de l'âme. »
Antoine lui dit,
« Je n'y crois pas. »
Jean lui dit, « La science y croit maintenant, comme les religions. On a trouvé l'immortalité. »
Elle est vivante. »
Nénette dit à son mari, « Laisse-le parler un peu, puisqu'il est là. Il faut bien qu'il fasse son boulot. »
Elle va s'asseoir à côté de son mari.
Frère Jean lui dit, « La science a beaucoup avancé sur ce domaine. » Et c'est même sûr, maintenant, que l'on peut devenir immortel. Il faut prendre l'ADN de la personne et la mettre dans le corps d'une autre personne pour que la vie revienne.
Antoine demande, « ADN quoi ?»
Jean lui dit, « ADN, le fluide qui se tient en vous, qui se trouve en vous et qui est immortel. » Si on l'enlève d'un corps mort et qu'on le met dans un corps en bonne santé, l'ADN continuera à vivre. Il faut faire le transfert. Et pour cela, il faut se préparer, dire que l'on veut que l'on prenne votre ADN pour le mettre chez un autre.
Nénette demande, et nous continuerons à vivre?
Denise lui dit, « Oui, ma sœur, un dieu a mis l'immortalité vitale dans l'ADN. Mais pour cela, il faut que l'ADN change de corps, parce que celui-là n'est plus bon. Nous sommes venus vous apporter l'immortalité en vous permettant que votre ADN change de corps. »
Antoine dit, « Et qu'est-ce qu'il faut faire ?»
Jean lui dit, entrez dans nos associations, signez des papiers, quoi vous nous donnez tous vos biens, et en échange, nous occupons de prendre votre ADN pour le mettre dans un autre corps. À votre mort, bien entendu.
Denise lui dit, oui, mais plus on meurt jeune, mieux c'est pour le transfert.
Et si vous désirez transférer le plus vite possible, « nous vous fournirons ce qu'il faut. »
Frère Jean lui dit, «
Tout est compris. Le poison, si vous voulez en finir avant, très efficace et sans douleur. L'enlèvement des corps, la livraison, le transport, le transfert, les funérailles du corps, qui est l'ancien corps, quoi, religieux ou non. Étienne regarde sa femme et lui dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Elle lui dit « Je ne sais pas. » Frère Jean lui dit « Bien sûr, si vous êtes satisfait de votre vie, vous mourrez de mort naturelle. Mais il vaut mieux mourir le plus jeune possible. » Antoine dit « Que faut-il faire ?» Jean lui dit « Vous signez un papier où vous nous faites don de vos biens, de votre corps, de la permission de faire des expériences scientifiques et de transférer votre ADN. Une simple signature et vous êtes libéré de tout. » Denise dit « Je vais vous lire un passage de la Bible sur la résurrection des corps. » Et elle lit À la fin, ils ont signé. Frère Jean et Denise sont partis avec les papiers. Antoine dit une fois qu'ils sont partis, « Tu crois qu'on a fait une bêtise ?» Elle lui dit, « Je ne sais pas, mais nous ne sommes pas encore morts. » Antoine lui demande, « On va à leur réunion ?»« Je ne sais pas. » »« Ils veulent nous expliquer l'ADN et l'immortalité, le plus jeune possible. » Elle lui dit, « Tu crois que c'est mieux, le plus jeune possible ?» Il lui dit, « Peut-être. Toi, t'aimerais pas avoir un jeune corps ? Un jeune corps beau ?» Elle lui dit, « Oui, bien sûr. » Les hommes vont dans les hôpitaux et visitent les malades. Un de ces hommes, grand, mince, habillé d'un costume noir, entre dans la chambre d'un malade. Où est couché un homme d'une quarantaine d'années. Il est maigre, les cheveux déjà grisonnants. Il a des perfusions aux bras. Semble souffrir et est en sueur. L'homme s'approche du malade.
Bonjour, je m'appelle frère Luc. Je suis venu t'apporter le réconfort, mon frère.
Le malade lui dit, je ne crois pas en Dieu.
L'homme lui dit, cela est ton affaire. Moi, je suis venu te réconforter parce que tu es malade et que tu vas mourir.
L'homme inquiet lui demande, je vais mourir.
L'homme lui dit avec le sourire, oui, bien sûr que tu vas mourir. Nous allons tous, grâce à Dieu.
Ce n'est pas une nouvelle que je te dis, parce que tout le monde meurt. Tu croyais que tu allais pas mourir, mon frère?
L'homme lui dit, j'en ai pour combien de temps?
Luc lui dit, ah, voilà.
On veut savoir combien de temps il reste à vivre. Eh bien, disons, peu de temps.
Mais je ne veux pas mourir, moi.
Luc lui dit, ne faites pas l'idiot. L'on meurt toujours. Et puis, je ne suis pas venu là, c'est pas pour vous réconforter et vous dire,
mais non, mon ami, vous allez très bien, vous serez sur pied bientôt.
Non, moi, je suis venu pour vous dire la vérité. Vous allez bientôt mourir. Et le peu de temps qui vous reste à vivre sera très pénible, parce que vous allez avoir d'horribles souffrances. Et pour apaiser ces souffrances, il ne peut y avoir que la mort. Cette mort qui va vous donner la sérénité et le repos complet. Vous allez tellement souffrir que vous allez supplier qu'on vous laisse mourir.
L'homme le regarde apeuré. Luc continue.
Vous allez souffrir pour respirer. À la tête, vous aurez des nausées constantes, vertiges, des douleurs dans la poitrine terribles, comme si on vous la transperçait d'une épée. Et cela vous fera si mal que vous aurez des difficultés pour respirer. Vous ne pourrez plus vous alimenter, trop faible. Et votre corps refusera toute alimentation, nausées, maux de tête, tout trouble insoutenable, terrible. Dans votre cerveau, il y a comme une pieuvre, une tumeur qui est comme une pieuvre qui grandit à vue d'œil et enserre le cerveau. Cette pieuvre est une tumeur, il n'y a rien à faire. On va vous opérer pour rien. Le cerveau, qui est devenu une masse de douleurs, va petit à petit perdre ses facultés. Il ne reconnaîtra plus la gauche de la droite. Vous serez constamment fatigué. Vous ne pourrez plus lire. Difficulté de penser. De plus en plus opprimé. Mal de tête. De plus en plus forte. Nausées. Vomissements. Les douleurs deviendront insupportables. Et on ne pourra pas les calmer. La dernière semaine, vous ne serez qu'un temps de douleur et vous ne serez plus en état de demander d'arrêter le traitement qui ne fait que prolonger et aggraver la douleur. Voilà votre avenir, mon fils.
L'homme est complètement abattu. Il dit à Luc.
Mais je ne veux pas, mon Dieu. Non, je ne veux pas. Guérissez-moi, je vous en supplie.
On ne peut pas vous guérir lorsque le cerveau est attaqué et atteint, c'est fini, il n'y a rien à faire.
Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne pourrai pas le supporter. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ne veux pas souffrir. Je sens déjà un mal de tête terrible.
L'homme lui dit, c'est peut-être déjà le début de la fin.
Je ne veux pas, je vous en supplie.
Luc semble réfléchir et lui dit,
il y a peut-être un moyen. C'est que vous mourriez avant la phase de grande souffrance.
L'homme demande,
comment ?
Luc lui dit,
en arrêtant tout traitement et demandant qu'on vous libère des chaînes de la vie. Comme cela, vous ne souffrirez plus.
Oui, je veux bien.
Luc lui dit,
bien. Parfait. Il vous suffit de signer un papier demandant au médecin de finir votre vie, d'arrêter tout traitement et que vous acceptiez l'euthanasie pour éviter les souffrances atroces qui vous mèneraient malgré tout à la mort et que vous donnez votre corps au laboratoire Genetou. Le voulez-vous? Si c'est non, malheureusement, la pieuvre qui est dans votre cerveau va vous torturer, brailler. Vous avez un alien dans la tête.
L'homme lui dit,
non, je veux signer de suite.
L'homme sort de sa poche une feuille et un stylo.
Signé. Ce qu'il y a d'écrit en petit caractère, c'est que vous nous donnez tous vos biens. De toute façon, qu'en ferez-vous ?
L'homme signe.
Merci.
Luc dit :
Merci, mon frère. Je vais prévenir le médecin.
Il lui demande :
Et je vais mourir quand ?
Peut-être cet après-midi. Il y a d'autres personnes avant vous.
L'homme lui dit :
Déjà ?
Luc lui dit :
La lien grandit vite. Allez, au revoir, mon. Nous nous reverrons au laboratoire jeune tout. Je participerai à vos découpes.
L'homme demande :
Découpe de quoi ?
De votre corps. Eh bien oui, pour sélectionner ce qui est bon, comme on fait pour un cochon. C'est très drôle. Quelquefois, on nous amène des personnes dans le coma. Et parfois, qui ont cours de l'opération se réveillent d'un coup. Mais ne craignez rien. Avec vous, on fera en sorte à ce que vous soyez vraiment mort. Avec un coup de marteau à la tête. Paf ! Allez, à bientôt.
Et Luc sort de la chambre. Et va au bureau du médecin-chef, docteur Morel Poulard. Frappe à la porte du bureau.
Entre. Il entre.
Grande pièce en bureau moderne genre hôpital. Monsieur Morel, un homme grand, fort, à cheveux grisonnants, lunettes, habillé d'une blouse blanche, lorsqu'il voit Luc, il lui dit :
Salut Luc, ça va ? Ça va. J'ai encore 10 de plus.
Paul lui dit :
La sécurité sociale va être contente. Ça va faire des économies.
Luc lui met les papiers.
Voilà, ceux consignés. Vous avez les cassettes aliens ? 1, 2, 3, 4 ?
Oui.
Passez-les en boucle dans les chambres. Tout le monde à la télé ?
Oui, et gratuitement. Et avec une chaîne, la chaîne de l'hôpital.
Luc lui dit :
Émission sur maladie grave, film d'horreur comme Alien, c'est bon ça, et des histoires sur l'immortalité, le paradis, etc. Cela aide beaucoup pour les contrats. N'oubliez pas, on veut les corps dans un coma profond, mais pas mort, à cause du sang et du cerveau.
Morel lui demande :
Et la tumeur ? Qu'est-ce que tu en fais ?
Nous la gardons, elle peut servir.
Bon, je te quitte. Nous reverrons à midi au restaurant.
Tu vas voir la vieille ?
Oui. Allez, au revoir, à tout à l'heure.
Et il sort du bureau.
Il entre dans une chambre. Où se trouve une femme de 70 ans, cheveux gris, visage dur, yeux profonds noirs, tête ronde, qui s'approche d'elle.
Elle le regarde d'un œil mauvais et lui demande :
Qui êtes-vous ?
L'homme lui dit :
Je suis Luc, ma sœur.
Je ne suis pas votre sœur.
Et que venez-vous faire ici ?
Je vous ai pas demandé ?
Et puis, je paye ma chambre très cher d'ailleurs, pour être tranquille. Je trouve que c'est trop cher ici, et que l'on mange très mal, que les femmes de service font mal leur travail. C'est pas propre. Je vais écrire au ministre, et s'il ne fait rien, je lui dirai que je vote Le Pen. D'ailleurs, il y a trop d'étrangers dans cet hôpital, et eux ne payent pas. J'ai mal à l'épaule, à la jambe. Le médecin chef ne vient jamais me voir. Je vais me plaindre.
que je manque de soins.
Luc lui dit,
de toute façon, il n'y a rien à faire. Vous avez une tumeur.
La femme lui dit,
qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes médecin? Vos papiers? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Ici, c'est privé.
Et quoi, monsieur?
Je ne paie pas assez pour avoir une tumeur. Et si j'en ai une, j'irai me plaindre, car c'est la faute de la femme de service qui n'a pas fait proprement son travail. Et la nourriture que l'on me donne, la mauvaise nourriture que l'on me donne.
Luc lui dit, de toute façon, ça ne sert à rien, parce que vous allez mourir.
Et elle lui dit, vous n'avez pas le droit de me dire ça. Je suis une honnête femme. Je connais mes droits, et les médecins ont intérêt à me guérir, autrement c'est le jugement. Je connais le ministre, le maire, le directeur de l'EPAC, le boulanger, chauffeur du car 61. Alors vous n'avez pas intérêt à me faire mourir. Assassin! Assassin! Luc lui dit.
Mais je n'y suis plus rien si vous allez mourir dans des souffrances atroces.
Les médecins n'ont qu'à mieux faire leur travail. C'est de leur faute si je vais mourir. Ce sont des assassins. Au secours! Au viol! Au viol! Au viol! Au viol! Au viol!
Une infirmière est entrée, grande, forte.
Que se passe-t-il? Elle lui dit, il a voulu me violer. C'est un sadique. Et un étranger, il faut le mettre dans un avion.
L'infirmière regarde d'un mauvais œil Luc.
Elle lui demande,
qu'est-ce que vous avez fait à cette brave madame bout de terre?
Luc dit,
mais rien.
Cela m'étonne, sadique.
La vieille crie,
« Oh sadique! Oh sadique! Oh sadique !»
L'infirmière lui crie,
« Vous avez voulu violer cette brave dame! C'est une honte, une sainte femme comme elle qui n'a jamais été souillée par un homme. C'est sûrement cela qui vous a excité.
» Luc sort de la chambre en courant.
L'infirmière, dans le couloir, lui crie, ne revenez jamais ici, sinon j'appelle la police, exhibitionniste.
Luc se sauve en courant.
C'est la première fois qu'il lui arrive une chose pareille. Il va falloir qu'il se déguise maintenant.
Peut-être un prêtre catholique? Non. On le traiterait de violeur, pédéraste, etc. Un musulman, c'est mieux. Et puis ça fait intégration.
Dans un laboratoire où se trouve l'ordinateur qui a l'ADN de Félicien Pontois. On a branché à l'ordinateur les bouts de fibres nerveuses de son cerveau qui sont bombardés de rayons laser pour les revivifier et de sang. L'ordinateur enregistre toutes les informations qu'il reçoit de ces fibres nerveuses, les enregistre et en même temps les décode. Trois techniciens en blouse blanche font ce travail. Un pour les fibres nerveuses, un qui s'occupe des rayons laser, un autre du sang et le troisième de l'ordinateur. Monsieur Riquin va vers eux. « et leur demande
« Alors, qu'est-ce que ça fait ?»
Celui qui est aux ordinateurs lui dit « Pour le moment, nous n'enregistrons que des signes de décharge électrique. » Zurichin lui dit
« C'est normal, il faut que les fibres soient réactivées. Après, elles vont nous donner des informations dans le désordre. Les premières informations seront des informations désordre pour les réflexes automatiques. Ces informations-là, vous les éliminerez. Nous, nous ne voulons que des informations mémoire et intelligence. N'oubliez pas l'intelligence. Il faudra que l'ordinateur puisse résoudre les problèmes que nous lui demanderons avec l'intelligence de Pontoise. Allez, bon courage, mes enfants. »
Et il sort de la pièce.
Sort le corps de la salle d'opération qui s'est bien passé. Le corps est mis dans une pièce stérilisée avec un lit.
Une fois l'homme couché, on sort de la pièce.
Le corps a des bandelettes sur la tête. Il semble endormi, à la peau très blanche, pâle.
Un médecin et une infirmière en vêtements de protection verts et cache-cheveux gantés s'approche de l'homme avec un chariot pour lui mettre le goutte-à-goutte.
C'est ce qu'ils font.
Puis quitte la pièce.
Dans une lumière tamisée verte, rien ne bouge.
Temps régulier, une porte qui s'ouvre,
des pas qui s'approchent du lit, on se penche, on change les bouteilles, on prend le pot
et on repart.
Noir profond qui devient sensible, une odeur étrange, le silence, mais qui n'est plus le silence du rien, mais de la vie.
Un bruit de porte.
Des pas.
Une odeur de plastique et de désinfectant se penche. On le touche. On parle.
Tu vas bien ?
Oui. Et les pressions qui s'éloignent.
Que l'on a fermé.
Où je suis?
Qui suis-je? Et cette douleur à la tête, à la poitrine.